Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ce sujet-là, mais en particulier depuis quelques semaines, on parle de l'action de l'esprit du royaume de Dieu qui agit en nous et comment est-ce qu'il, dans quoi est-ce qu'il veut nous emmener, dans quoi est-ce qu'il veut nous guider. Parce que la Bible, elle dit de marcher par l'esprit. L'esprit veut nous diriger. Il veut diriger son Église dans certaines choses qui font partie de sa vision des choses. Comme je l'ai dit, quand on vient au Seigneur, on donne notre vie au Seigneur, on est pardonné, on reçoit le Saint-Esprit, on est greffé à l'Église, on est greffé au royaume. Maintenant qu'on fait partie du royaume, il faut apprendre à marcher comme un habitant du royaume de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est pas du free-for-all. La vie chrétienne, il y a tout un mode de vie dans le Nouveau Testament que Jésus veut nous conduire. Il veut nous délivrer de tout ce qui n'est pas de lui, puis il veut mettre en nous, il veut qu'on revêtisse l'homme nouveau, puis dans cet homme nouveau-là, il dit toute chose est devenue nouvelle. Ta vie sera plus pareille. Si tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, ta vie va complètement changer. Avant, tu pouvais t'en aller à marcher tout croche, à te foutre de tout le monde, puis à vivre dans ta vie selon tes convoitises. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es mort à toi-même. Tu renonces à toi-même, tu prends ta croix, puis tu suis Jésus. Puis là, suivre Jésus, c'est suivre ses instructions. Jésus a dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Puis là, ça, c'est la vie de l'Esprit. C'est déjà tout écrit parce que les premiers qui ont marché déjà dans ces pas-là, ils en ont fait l'expérience, puis ils nous ont tout mis ça par écrit. Puis on a ça où? Dans la parole de Dieu. La Bible, le Nouveau Testament, là, tu as tout ce qui en est de la vie d'un disciple, la vie de marcher par l'Esprit. Aujourd'hui, on regarde, nous, les passages, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis on ressort les sujets principaux qui font partie du plan de Dieu. La semaine passée, on a parlé que l'Esprit de Dieu voulait nous amener à être dans l'unité les uns avec les autres. Puis c'est important de mettre tous nos efforts pour cela. Il y en a des fois dans notre vie, parce qu'on est des gens indépendants, « Wow, ça rentre le trouble, moi j'ai fait ma vie tout seul. » Mais ça, c'est pas la pensée du Saint-Esprit, c'est la pensée de notre chair. C'est notre manière de penser. Jésus se préoccupe de chacune de ses brebis. Pour lui, elles sont toutes importantes. Puis on va le voir dans le premier verset, qu'on va regarder justement aujourd'hui. Chacune des brebis du Seigneur qui font partie du royaume de Dieu sont importantes. Le Seigneur ne veut pas en perdre aucune de ses brebis. Dans un passage, dans Matthieu chapitre 18, le verset 14, Jésus est en train de parler à propos d'un enfant qui croit. Même un enfant qui croit, il ne veut pas le perdre. Il y a des anges qui gardent cet enfant-là parce qu'il croit. Puis parce qu'il croit, il est appelé par le Seigneur à marcher avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Puis de même, quand Jésus dit ça, de même, c'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Même pas un petit enfant qui croit, il veut même pas les perdre. Ça veut dire que je crois que le Saint-Esprit travaille fort pour garder les petits-enfants qui croient comme les personnes âgées, comme les personnes de tout âge, en fin de compte. Tous ceux qui croient pour Dieu sont importants. Autant qu'à la semaine passée, on a vu qu'il fallait s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, parce que l'Esprit veut produire une unité, puis nous, en tant que chrétiens, on doit faire tous nos efforts. Faire des efforts, c'est d'aller même au-delà de la manière qu'on pense. Si ça ne nous tente pas d'aider quelqu'un, mais parce qu'on voit un besoin, il faut y aller. Il faut y aller, pas parce que ça nous tente, il faut y aller parce que c'est Dieu qui veut qu'on prenne soin des autres. Aujourd'hui, c'est ça qui est la suite de l'autre message. Il veut l'unité, mais il veut développer en nous une vie au service des autres. Parce que pour lui, si Jésus sera là, puis vous et l'autre qui est dans le besoin, il sera tout de suite au devant pour aller y aider. Ça, c'est le caractère de Jésus. que ça soit une guérison, une délivrance, un besoin de prière, un coup de main. Ils ont faim quand il a fait un feu de camp, il s'est fait à manger. Jésus était celui qui pourvoyait à tous les besoins. Il a besoin d'argent pour payer des taxes. Il a dit, va à la pêche, pogne le premier poisson. Le premier que tu pognes, il va une pièce de monnaie dedans, puis tu payeras pour nos deux. Jésus est comme ça, puis il veut qu'on soit comme ça, nous aussi.
Amen.
Depuis le début, le Saint-Esprit travaille fort pour fortifier ses brebis puis de les faire grandir. Dans Actes 9, 31, ça nous dit que l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans cette période-là, il y avait une période de paix. Je dis pas que ça a toujours été en paix. Ça dépend pas de nous, parce que ça dit autant que ça dépend de nous, soyez en paix. Mais des fois, c'est les autres qui cherchent le trouble, les gens du monde. C'est ce qui est arrivé, il y a eu des persécutions. L'Église est obligée de fuir dans d'autres villes. Mais dans le moment qu'il était dans la paix, ça dit qu'il s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il y a une croissance dans une église à quelque part, puis je crois qu'il y en a une ici à Beauharnois, ça ne parle pas nécessairement de la quantité, ça parle de la qualité de la vie chrétienne qu'on vit. S'il y a une croissance, c'est à cause que le Saint-Esprit travaille pour nous faire grandir. Il vous parle, il me parle, il vous parle, il nous parle. Il essaye de nous pousser à ce qu'on rentre dans le plan de Dieu pour chacun de nous. Puis quand on grandit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Puis ça dit que aussi qu'il s'édifiait en marchant dans la crainte du Seigneur. Ça, s'édifiait, on voit là-dedans l'apport des disciples. C'était pas des disciples qui se détruisaient les uns les autres, qui parlaient les uns contre les autres, qui cherchaient à enfarger les autres, puis qui essayaient d'avoir la première place ou des affaires de même. L'Église s'édifiait, ça dit, s'édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que l'Église s'édifiait. Ça veut dire que chaque brebis dans l'Église travaillait à l'édification. Puis ça, c'est le point qu'on va voir aujourd'hui. Être au service des autres, c'est que moi, je dois être concerné à ce que vous grandissiez. Mais il n'y a pas juste moi. Chacun de vous devait être concerné à ce que les autres grandissent dans le Seigneur, je parle. Puis qu'ils puissent avoir une vie agréable, une vie pour bénir Dieu, qu'il ne lui manque de rien, qu'ensemble, on s'entretient pour se bénir puis se pourvoir. C'est ça qui est le but. On va voir dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit veut bâtir l'Église, puis il le fait, puis il veut que chacun de nous aussi, qu'on travaille au même diapason que le Saint-Esprit, puis qu'on travaille nous aussi à bâtir l'Église, puis à la faire édifier cette Église-là, à la faire grandir. Le Seigneur veut nous montrer que le travail de chacun est important pour Dieu. Il n'y a pas de, mettons, une personne qui dit, ah, ben, moi, j'ai pas reçu de don, je suis pas capable d'aider personne. Ça se peut pas. Ça serait contredire ce que Jésus nous dit dans sa parole, parce qu'il dit qu'il a donné à chacun de nous des dons, des talents, des capacités. On a toutes reçu au moins une affaire importante pour faire avancer le royaume de Dieu. Il y en a qui n'ont reçu plus qu'une, mais on a toutes au moins une chose. Si vous avez deux bras, deux jambes, vous pouvez rendre des services. Si vous avez une bouche, vous pouvez parler, vous pouvez encourager, vous pouvez prier. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut faire dans le royaume. On va en regarder quelques-unes tantôt. On est tous appelés à s'investir principalement pour faire accroître l'Église. Ça va être comme une vie à contre-courant de ce qui se passe dans l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde-là, il est 100% égoïste, égocentrique. Les gens sont centrés sur eux-mêmes. Moi, moi, moi. Ça, c'est tout juste que dans les églises, qu'on soit pas bénis-moi, 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 puis après ça, t'es voué pas nulle part. Ils sont pas là en train de servir le Seigneur. Ça veut dire que les gens sont en train de suivre le courant de ce monde parce que l'Esprit de Dieu lui dit, oh, regarde les besoins de l'autre. Pour voir aux besoins de l'autre, secours l'autre, fais du bien pour l'autre, prie pour l'autre dans ton église. Dans chaque brebis doit mettre ses efforts pour travailler avec Dieu pour faire grandir son royaume. Comme Jésus a dit la semaine passée, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Fait que soit qu'on est une personne qui rassemble ou une personne qui disperse. Si notre vision des choses, c'est « faut que je passe, puis moi, il faut que j'atteigne ce but-là, puis moi, faut que je me rende là, puis moi, oh, je suis prêt à tasser les autres, puis à tout écraser sur mon passage », ça, c'est une pensée égocentrique. C'est une pensée qui est contraire à l'œuvre de l'Esprit. Dieu veut qu'on apprenne à s'humilier, à regarder les autres plus grands, plus importants que nous. Puis quand tu vois que quelqu'un il est honoré, bien, on se réjouit avec lui, puis on est content, puis on va applaudir pour le féliciter, pour y faire du bien. Tu sais, l'idée, c'est qu'on ne cherche pas juste notre intérêt. On est là pour le corps. Je suis un membre de ce corps-là, dans la période que je suis là, je suis encore vivant, avec des capacités. Jésus m'a mis là, greffé à ce corps-là pour bénir ce corps-là, pour y faire du bien, pour que ce corps-là puisse s'édifier, s'accroître. Parce que c'est à cela que le Saint-Esprit travaille, puis c'est à cela que le Saint-Esprit voudra m'utiliser aussi avec mes dons pour travailler aussi avec lui pour faire grandir l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, ça dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Tout à l'heure, j'ai dit l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, mais ça dit que c'est le Saint-Esprit, si on regarde juste ça, ça dit « C'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'Église ». Oui, mais dans un autre verset, ça dit « Je suis un ouvrier avec Dieu ». Avez-vous ce sentiment-là, ou cette sensation-là, ou cette pensée-là de dire, « Hey, je suis en train de travailler avec Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. » Puis ça dit, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, puis vous êtes le champ. » Fait que le premier champ d'action pour un chrétien, c'est où? C'est dans le champ de Dieu. Oui, on cherche à en chercher dans l'évangélisation, ça fait partie du travail. Mais quand ils sont là, il faut en prendre soin. Dieu nous a placés là pour prendre soin d'eux autres. Quand je dis eux autres, c'est de vous que moi face à moi, mais de vous aussi face à moi, que les uns les autres face aux autres. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, là c'est l'apôtre Paul qui parle, et j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Lui, il a travaillé à sauver des âmes, à bâtir des églises. Il y avait plein de groupements d'églises qui étaient le corps de Jésus. Puis il y avait plein de membres dans chaque église. Puis là, il dit, il y a un autre qui bâtit dessus parce qu'il me plaçait à d'autres ouvriers en charge de ces églises-là, puis d'autres bâtissent sur les fondements que lui a établis. Mais il rajoute que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire, autant qu'on est arrivé à un moment donné dans une église, avec nos dons, nos talents, nos capacités, je suis là pour bâtir dessus le fondement qui était déjà là. L'Église du Seigneur, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je suis là pour aider à ce que ça puisse s'accroître avec le Saint-Esprit. Puis là, il dit, prenez garde la manière de bâtir. C'est important parce que si je ne suis pas un bâtisseur, je peux être en train de démolir. Si je suis en train de démolir, le Seigneur s'en aperçoit, puis le Seigneur n'est pas content. Parce qu'on se trouve à travailler contre le Saint-Esprit qui cherche à bénir chacune des brebis, même la plus petite. Un enfant, là, le plus petit qui croit dans notre église, c'est Michaela. Même elle, il faut y faire attention pour pas qu'elle perde la foi. Faut que je dise des affaires pour l'encourager dans sa foi. Mais même les plus petites sont importantes aux yeux du Seigneur. Ou sûrement dans vos familles, vous avez des plus jeunes. Prenez-en soin, c'est des plus jeunes que le Seigneur vous a confiés. Puis c'est pour les amener dans la foi, puis les garder dans la foi. Faut prendre garde à ce qu'on dit pour pas créer des problèmes qui font que les autres abandonnent. Si on se met à critiquer contre l'Église où ce qu'on est, on critique contre le pasteur, on critique les affaires, mais des fois, les gens, ça leur tente même plus d'aller à l'Église. C'est de même faire attention de la manière qu'on bâtit sur le fondement. Il y a un immense travail à faire qui durera jusqu'à notre propre départ de cette vie. Quand est-ce que je dois arrêter de travailler pour le Seigneur? C'est mais que je quitte de ce monde. Mais que je quitte, je ne pourrais plus rien faire. Il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts, ce qu'on s'en va. C'est ça que ça dit dans l'Ecclésiaste. Tu ne peux plus rien faire pour faire avancer le royaume une fois que tu es mort. C'est quand tu es vivant que c'est le temps. Puis c'est quand qu'on est là, mais on est là, là. S'il y en a qui ne croient pas qu'ils sont vivants, venez me voir, je vais vous pincer, vous allez voir, ils êtes bien vivants. Mais si vous êtes vivant, vous êtes en cours de ce monde, comme c'est écrit dans Hébreu, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, mais si tu es capable de dire qu'on est aujourd'hui, c'est parce que tu es encore là, puis tu es encore ta tâche de travailler pour la croissance du groupe, la croissance des brebis, de chacune des brebis. Puis là, si on continue au verset 8, il disait, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça veut dire que peu importe la job que tu es en train de faire dans l'Église, tu es autant important, tu es égal à l'autre, puis c'est Dieu qui fait le travail au bout de la ligne. Mais on doit être là en train de faire le nôtre. Comme j'ai dit tantôt, il y a un immense travail qui va durer jusqu'à la fin de notre vie, puis les récompenses seront après, selon notre travail qu'on aura accompli. Fait que là, on est dans le temps de travailler, puis un jour, on récoltera les récompenses. Ça se peut qu'ici, sur cette terre, les temps soient tellement difficiles que tu ressens pas que t'es béni ou que t'es récompensé. Mais faut pas que tu t'attendes que les récompenses soient nécessairement pour maintenant. Si on est dans un contexte de pauvreté extrême à cause qu'il y aura des guerres ou peu importe ce qui arrivera dans la suite, mais faut quand même penser que je suis encore vivant, je suis encore ici, je dois travailler pour le Seigneur. Je dois travailler jusqu'à temps que je suis vivant. Jusqu'à temps que je meure. Mais que je meure, c'est fini. Là, après, j'aurai des récompenses. Mais on est encore en train de travailler. Dans le verset 3, 1 Corinthiens 3, 6 à 8, Paul, il dit, « J'ai planté, Apollos y a arrosé, Dieu a fait croître. En sorte que c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Parce que Dieu, il est pas aveugle puis il fait pas d'Alzheimer. Il s'en souvient de ce que vous avez fait pour lui. Tout ce que vous avez fait, puis il se souvient pas que de ce qu'on a fait, il se souvient de chaque personne qui a vécu sur cette planète. Même chaque oiseau qui a vécu sur cette planète, depuis le début, il s'en souvient. Puis il se souvient de chaque parole que les gens ont prononcée, nos pensées, tout, il se souvient de tout à 100%. Fait qu'ils avaient peur de pas être récompensés, ils n'avaient pas besoin d'avoir peur. Ayez confiance à Dieu. Dieu nous voit tout le temps. Il est toujours là. Puis il sait comment ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on est en train de traverser. Il sait tout. Puis il voit les efforts qu'on fait pour faire avancer son royaume. L'Église, c'est le champ de Dieu. Les ouvriers doivent principalement travailler dans le champ. Oui, il y en a qui vont dire, oui, je travaille, j'ai ma job, faut que je gagne mon pain. Oui, c'est vrai. Ça fait partie du plan de Dieu qu'on travaille. Il nous encourage à travailler de nos mains pour avoir de quoi à donner. Voyez-vous? Puis Dieu va pourvoir à tout ce qu'on a besoin, puis en plus, il va nous donner over pour qu'on ait de quoi à donner. Il y a plusieurs versets dans ce sens-là. Tu travailles, c'est correct, mais faut être du temps pour le royaume de Dieu. Faut être du temps pour les frères et sœurs qui sont dans le besoin, eux autres aussi. Parce que des fois, on pense qu'à combler nos propres besoins, mais en tant qu'individu, en tant que membre de l'Église, faut que je pense aussi aux champs, à ceux que Dieu nous a mis autour de nous. Comme je l'ai dit tantôt, dans 1 Corinthiens 3, 9, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, puis vous êtes le champ de Dieu, puis l'édifice de Dieu. Vous comptez pour Dieu, puis il compte sur les autres aussi pour vous aider. Comment les enfants de Dieu peuvent-ils mettre leur effort à bâtir le royaume de Dieu? » Bonne question. La Bible nous en dit-tu des tuyaux là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir le royaume, pour travailler? Bien, c'est de travailler dans le champ, mais comment? On va vous en donner quelques-uns des points. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans la prière pour les enfants de Dieu. Dans Éphésiens 6, 18, ça dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On se demande qu'est-ce que je peux faire pour chacune des brebis qui sont là. Mais il nous dit, faites des prières tout le temps dans votre journée, dans jour et nuit. Tant que vous êtes debout, vous pouvez faire des prières à Dieu. Dieu les entend toutes. Puis là, il nous encourage à pas lâcher, à prier, prier, prier. Fait que ça, c'est, je pense, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Prendre un temps, tu penses à quelqu'un qui a un besoin, tu pries pour lui. Dans ce passage-là, il nous dit, prie pour tous les saints. Vous pouvez, comme j'ai expliqué au niveau de la prière, il y a les prières par l'esprit, puis il y a les prières avec l'intelligence. Les prières avec l'intelligence, là, tu prends une feuille, puis tu écris des noms de ceux que tu connais, puis tu peux prier pour ces personnes-là. C'est prier avec l'intelligence, c'est que tu sais, il faut que tu pries pour les saints, puis là, tu marques les noms de ceux que tu connais comme saints, puis tu pries pour eux autres, pour leurs besoins. C'est facile. C'est une manière de faire avancer le royaume. Est-ce qu'on y croit que Dieu entend nos prières? Il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Puis il y a plein de promesses comme cela sur la prière. Puis Dieu veut exaucer. Puis si on se demande, c'est-tu la volonté de Dieu que je prie pour mon frère dans l'église ou ma sœur dans l'église? Ben oui, il nous dit, priez pour tous les saints. Puis si je sais que c'est quelque chose qui est selon sa volonté, Dieu l'écoute-tu? Oui, dans Jacques, ça dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Puis si nous savons qu'il nous écoute dans quelque chose qu'on lui a demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que quand tu pries, basé sur une idée qui est déjà écrite, fallait comme cela, si tu le fais, tu vas être exaucé. Puis si tu es exaucé, tu vas participer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça prenait de la prière pour que la situation se règle. En passant, il n'y a rien de plus grand moyen efficace pour régler les problèmes dans ma vie, dans la vie des autres, dans la vie à mon travail, dans la vie dans ma ville, dans la vie du monde, même les guerres, les plus grandes guerres qu'il peut y avoir, il n'y a rien de plus efficace que de prier. La prière, ça change les choses parce que ça dérange le monde spirituel. Puis après ça, ça change les choses humaines. C'est la prière qui est un puissant moyen pour renverser les forteresses, renverser les choses qui nous bloquent dans nos vies, pour demander à Dieu d'ouvrir les portes ou de les fermer, pour nous guider, demander à Dieu d'être secouru dans tous nos besoins. Un autre point qu'on voit dans un passage, le Saint-Esprit veut nous conduire à pratiquer le bien envers les enfants de Dieu. On voit ça dans Galates, au chapitre 6, le verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Il y a quelques points qui sont bons là-dedans, c'est pendant qu'on a encore l'occasion. Jésus a dit, il va venir un temps que la noirceur va venir puis vous ne pourrez plus travailler. Il a dit ça dans un verset. Les ténèbres vont venir puis on ne sera plus capable de travailler. Mais ce n'est pas encore arrivé. On est encore capable de faire des choses pour le royaume de Dieu. On en a encore la liberté. On a encore l'occasion de mettre nos dons au service des autres, aider les autres. Ça dit, pratiquons le bien envers tous. Jésus dit, fais que donner un verre d'eau, tu ne perdras pas ta récompense. Aider les autres autour, c'est dans tous les sujets. Il y en a un qui déménage, un qui tire ses joints. Aller l'aider à tirer ses joints, un autre fait d'autres choses. Toute l'aide qu'on peut faire, aider son prochain, surtout les frères dans la foi. C'est nous. On voit le focus qui nous amène dans ces versets-là, prier pour tous les frères, faire du bien, surtout aux frères. C'est le centre pour un chrétien, ça devrait être son centre de vision, d'interaction, d'aide, de soutien, d'effort à mettre. C'est ça qui fait. Parce que c'est beau d'aller en chercher 10, mais on s'en en prend pas soin. S'ils sont laissés sur le bord de la rue, puis on les revoit plus, c'est comme mettre un enfant au monde, puis de pas s'en occuper. En réalité, on est comme tous des enfants au monde que Dieu nous a amenés dans le monde spirituel. Il les a fait naître de nouveau. C'est tous des bébés. Ils ont tous besoin qu'on prenne du temps avec. Qu'on leur parle, qu'on réponde à leurs questions par téléphone, par tous les moyens de se connecter un à l'autre. À l'église, c'est la meilleure place. Puis si on organise des activités, c'est encore plus fun. On fait des affaires ensemble, puis on fait avancer l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire aussi à pourvoir aux différents besoins des frères et sœurs. Dans Romains, j'ai sauté un verset. Mais pour rendre service aux autres, j'ai pas lu le verset. Dans Galates 5:13, je vais lire Galates 5:13 avant. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Souvent, je dis, là, je critique pas, je fais juste dire ce que je pense qui pourrait aider. Souvent, je l'ai vu dans ma propre vie, là, je vais aller à l'église, puis je voyais du monde servir dans l'église, puis moi, je m'assisais sur ma chaise, puis quand j'ai fini, je m'en vais, j'ai rien fait. J'ai rien fait pour faire de quoi pendant que j'étais là à l'église. Ça vous est-tu déjà arrivé? Quand on va à l'église, on s'en va rencontrer Dieu. Oui, c'est une des aspects. Il y a aussi la communion fraternelle qui est là, là. Je m'en vas-tu là pour bénir les autres? Y a-tu quelque chose que je pourrais faire qui pourrait bénir quelqu'un, qui pourrait y apporter un plus? Peut-être dans le déroulement de l'Église, peut-être parce qu'il y a des choses à faire pour l'entretien. Souvent, là, il est haut dans mes jambes, lui. Souvent, c'est les mêmes qui font tout. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui seraient capables de faire quelque chose pour se rendre au service des autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, mon frère ou ma sœur? Puis si tu y as pensé d'avance, tu arrives avec ce qu'elle a de besoin, tu y rends service. Elle a besoin d'un livre pour venir à l'église. N'importe quoi. Comme là, je sais qu'Odette n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle n'avait pas de livre. Mais l'idée, c'est, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire qui vont rendre service aux autres dans l'église? Je vous lance ça de même. Un autre point, c'est le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on pourvoie aux besoins des frères et sœurs. Dans Romains 12:13, ça dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. » Des fois, on sait qu'il y en a qui n'ont pas gros d'argent. Ils arrivent à la scène. Ils se payent jamais un petit extra, un petit quelque chose qui ça lui ferait du bien. Puis nous, des fois, on s'en paye à tous les semaines. Ça sera normal que de temps en temps qu'on invite quelqu'un à venir partager notre bénédiction. Si je suis béni au bout, puis l'autre, il n'y a rien, mais quelque part, ça se peut-tu que Dieu voudrait que j'aide, que je bénisse cette personne-là avec ce qu'il m'a déjà confié? Est-ce que tout ce que j'ai, c'était juste pour moi? Souvent, on pense ça. On pense que ce que j'ai, c'est juste pour moi. Dieu m'a béni, les autres, mais priez Dieu, puis Dieu va vous bénir. Non. Il nous donne souvent pour qu'on donne à l'autre, qu'on fasse profiter l'autre. Amen. Il veut qu'on se bénisse les uns les autres. Quand je me rappelle, quand je me suis converti, là, ça me faisait plaisir quand quelqu'un m'invitait chez eux. Pas parce que j'en avais besoin, mais ça me bénissait. C'est de la communion fraternelle. Ça bénit les autres quand on invite quelqu'un. T'es même pas obligé de sortir, de faire une prêche, là. Tu fais juste y faire un repas puis y partage. Je suis d'accord. La COVID nous a refroidi pas mal. Mais là, je suis sûr que le Saint-Esprit parle de ces sujets-là pour nous réchauffer. Pour qu'on se renligne dans la vision du Saint-Esprit. Pour retravailler ensemble à rebâtir. Bon, il n'est pas détruit, le royaume, tant qu'on l'a. Mais à renforcer les liens, à souder. On est un solide assemblage ensemble. Mais des fois, même si ça disloque un peu, quand on y repense, il faut se ressouder ensemble. Mais je pense qu'il est en train de le faire. Les pourvoyer à leurs besoins, des fois, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose, tu passes, tu y laisses un sac devant la porte, puis tu dis, quand le Seigneur me met à cœur de te bénir, tu y laisses un sac avec des affaires dedans, puis l'autre en avait besoin. Ou tu l'invites chez vous en exerçant l'hospitalité. Ça bénit les gens. Des fois, c'est des gens seuls. C'est pas qu'ils ont besoin de quoi manger, mais ils ont peut-être besoin de jaser. Puis les besoins, c'est de toutes les sortes. Puis quand tu exerces l'hospitalité, ben, ça l'aide. Le Saint-Esprit veut nous conduire aussi à rechercher les dons spirituels pour bénir les frères et sœurs. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. On voit là-dedans que quand tu aspires de moins en plus, Seigneur, plus de dons, je veux là, des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, le don des guérisons, le don des miracles, la foi, puis le parler en langue, l'interprétation des langues, tous ces dons-là, c'est pas pour que je sois plus à regarder dans l'Église. Non, c'est pas pour ça qu'il faut rechercher. C'est pour que les frères et sœurs soient bénis. Je dois penser, Seigneur, ça prend ça dans l'Église, les membres, ils en ont besoin. Il y a des brebis malades, ils ont besoin de guérir. Il y a des brebis qui souffrent, il y a des brebis qui ont besoin de guérison ou de délivrance. Peu importe les sujets où ils ont besoin d'une parole d'encouragement, mais les dons pour édifier les autres, c'est encore chercher la vision de Dieu pour les membres de son Église. Puis il dit, cherchez-en abondamment. C'est pas juste le pasteur. Je prie pour cela, mais je vous en parle pour que tout le monde prie pour cela. Cherchez à être à l'écoute de Dieu. Mandez-y au Seigneur qui vous dit ou qui vous donne des choses pour les autres. Spirituellement parlant, comme physique aussi, dans tous les aspects. La Bible a dit que nous sommes des distributeurs des divers cadeaux de Dieu. Moi, je suis en train de vous partager le cadeau que j'ai reçu. J'appelle ça un cadeau pour pas dire le don. J'ai un don. Je suis pas le meilleur sur la planète. Pas besoin d'être le meilleur. Je sais que j'en ai un don. Je le mets au service de l'Église. La Bible a dit qu'on est des distributeurs des diverses grâces de Dieu. Puis il a donné des dons à chacun. Un distributeur, là, c'est comme la, tu vas dans les toilettes, la boîte qu'il y a là, avec toutes les tu sais dessus, puis là, t'as ton papier, tu l'as dans les mains, t'en prends deux, trois. C'est un distributeur, il distribue le papier qu'il y avait dedans. Nous, on est des distributeurs, nous aussi, pour distribuer les divers dons que Dieu nous a donnés. Pour que tout le monde puisse passer à nous puis en recevoir un morceau ou deux, trois morceaux. C'est ça qu'il nous dit. Dieu veut qu'on les mette au service des autres enfants de Dieu. Dans 1 Pierre 4, 10, ça dit, « Comme de bons dispensateurs, » c'est ça qui est un distributeur, c'est un dispensateur. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. » En connaissez-vous des autres? Il y en a une couple. Mettez-le au service des autres, les dons que vous avez reçus. Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'a pas reçu de dons? Qui est complètement là, comme ficelé parce qu'il ne peut pas bouger, puis il ne peut pas parler parce qu'il y a un tape sur la bouche. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus à ce point-là? J'avais besoin de délivrance, c'est bon. J'avais besoin qu'on prie, mais qu'on coupe les cordes puis qu'on enlève le tape. Vous avez tout quelque chose que vous êtes capable de faire pour l'autre. Ce que vous avez, ce que vous êtes, là, voyez-vous pas comme quelqu'un qui est pas important. Vous êtes un don de Dieu. Ceux qui étaient là à l'étude dans Éphésiens, là, ça le dit. Jésus est monté puis il a fait des dons aux hommes. Il a donné des dons ministères, puis il a donné aussi des dons spirituels. Il a donné des capacités différentes. Il a donné à chacun, comme à ses trois serviteurs, l'un en a eu cinq, l'autre en a eu deux, l'autre en a eu un, puis il dit, faites-les valoir jusqu'à temps que je revienne. J'avais toute comme une responsabilité d'être au service des autres. Mettez votre don au service des autres, le don que vous avez reçu de Dieu. Premier don, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu des idées, des inspirations, des choses qui vous ont édifié. Moi, c'est de même que ça marche. Chaque fois que j'ai une nouvelle idée, là, une nouvelle pensée qui vient de quelque chose que je médite, que le Seigneur me donne des idées, ben, je suis content d'avoir ça. Puis j'aime ça aussi les partager. C'est de même que ça marche. Mais vous autres aussi, vous en avez sûrement que le Seigneur vous a parlé à quelque part. Puis il veut que vous partagiez, que vous vous entraidiez, puis tout ça. C'est grâce à l'implication de tous qu'il se tissera des liens entre nous et que nous serons fortifiés ensemble. Dans Éphésiens 4, 16, ça c'est justement à la suite de ce qu'il a fait des dons aux hommes, qu'il a donné aux uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Puis là, il est rendu au verset 16, ensuite d'avoir donné ces ministères-là, il dit, c'est de lui, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance. Il parle de qui, là? Les liens de son assistance. Tous ceux qui ont reçu quelque chose venant de Dieu, dont ministère ou don spirituel, on est tous là pour assister Jésus dans la tâche qui a été faite ici. C'est de Jésus, puis grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage. Pour que l'Église soit solide, un solide assemblage, il faut qu'on tire nos forces les uns des autres. Ça nous dit, ça, on va être un solide assemblage, puis on tire notre accroissement selon la force qu'on vient à chacune des parties, on s'édifie lui-même dans la charité. Le corps va s'édifier lui-même dans l'amour. Le corps va grandir, puis il va être solide, puis on va être joints ensemble, puis on va tirer notre force les uns des autres, puis on va grandir dans l'amour. Ça veut dire tout ce que Dieu vous a donné, puis qu'il m'a donné, ça fait partie de ce qu'il faut pour que le corps soit un solide assemblage, puis qu'il grandisse dans l'amour. C'est ça qui est le but de la pensée, puis c'est ça que le Saint-Esprit veut faire dans l'Église. Quand je dis dans l'Église, c'est pas juste à Beauharnois, il veut faire ça dans toutes les Églises du monde entier. Mais il faut pas perdre de vue cette vision-là. Parce que Paul y a averti des églises, il dit, si vous mordez les uns les autres, prenez garde, frères, d'être déchirés les uns par les autres. L'idée, l'Église peut être en train de se détruire, parce que les gens ont perdu la vision de l'Église. Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Puis s'il vous le demande aujourd'hui, là, imaginez que je suis Jésus, là, puis je vous dis, tu m'aimes-tu? Je pouvais le demander à tout le monde, même tout de suite, on va dire, oui, Seigneur, j'espère que vous allez répondre oui. Hein? Mais Jésus s'attend pas juste à ce qu'on lui dise oui. Jésus, quand il l'a demandé, dans Jean 21, 16, il dit une seconde fois, parce qu'il a demandé trois fois, et Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit quoi? Paix mes brebis. Il veut pas juste entendre des oui, je t'aime. Il veut que tu sois en train de paître ses brebis. Il veut du monde en action en train d'aider les autres frères et sœurs. Avec les dons qu'on a. Je peux pas y donner que ce que j'ai pas, mais ce que j'ai, comme Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a prié pour la personne. Mais nous, on a des choses, chacun de nous, des choses différentes, des dons différents. Mais si tu veux montrer au Seigneur que tu l'aimes, paie les brebis. Occupe-toi des frères et sœurs, de tous ceux qui sont là. Fais avancer l'Église. Voir les besoins des autres, puis pas y répondre, C'est comme la foi sans les œuvres. Est morte. C'est ça que ça dit dans le texte. Une foi qui n'a pas d'œuvres est morte. Mais voir les brebis des autres puis pas y répondre, c'est comme la foi sans les œuvres. Jésus, il dit qu'on regarde ce qui se passe autour de toi, puis occupe-toi-en des brebis. Dans Jacques, dans ce passage-là, il dit, si un frère ou une sœur sont nus, puis ils manquent de nourriture de chaque jour, puis que l'un d'entre vous, il dit, allez en paix, chauffe-toi, va te rassasier, va manger, puis que tu lui donnes pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire, va t'habiller, va te chauffer, va manger? S'il l'a pas, il peut pas le faire. Faut que tu lui donnes à manger, puis de quoi s'habiller. Ça veut dire que il compare ça à la foi sans les œuvres. Puis il dit que c'est ainsi, au verset 17, il en est ainsi de la foi. Ça n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire que on a beau dire qu'on aime le Seigneur, si on laisse crever de faim notre frère qui est le frère du Seigneur à côté de nous, on est pas en train de démontrer qu'on a une foi ben vivante. Chaque fois qu'un chrétien aide un autre chrétien, ben Dieu en reçoit la gloire. Car celui qui a reçu la bénédiction, il va glorifier Dieu. Quand il a reçu le panier, il avait faim, il a reçu un panier de nourriture, peut-être il ne sait même pas c'est qui a donné, mais quand il va prier, là, il va dire, merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière, puis j'ai un beau panier de nourriture devant moi. Bénis la personne qui me l'a donné. Fait que ça glorifie Dieu. Dieu va être glorifié parce que le frère ou la sœur va rendre gloire à Dieu, puis c'est ça qui est le but. C'est ça qui est arrivé dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 12. Le secours de cette assistance, parce que là, il est en train d'aider des pauvres dans une église, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Les dons que les gens ont reçus vont rendre des gloires à Dieu, puis Dieu il est glorifié au bout de la ligne. Puis Dieu, ben on le sait qu'on est là pour glorifier son nom. Puis quand tu fais des actions, puis que les autres vont dire gloire à Dieu à cause de ton action, c'est sûr que Dieu le voit. Puis Dieu va te bénir pour cela. Comme qu'il a dit, tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu vas avoir la récompense d'un prophète. Tu donnes même un verre d'eau, ça paraît insignifiant, mais s'il a soif, tu le bénis, lui va rendre gloire à Dieu, puis Dieu va te le remettre. Jean nous dit de pas nous aimer seulement en parole, mais avec des actions. Dans 1 Jean 3:18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça veut dire, un chrétien devrait être en train toujours d'être une personne qui donne l'exemple parce qu'il se donne aux autres. Les autres vont dire, ça c'est un vrai. Il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour. Mais il dit, l'amour n'est pas juste des mots, c'est des actions. Fait qu'on doit vivre des actions pour démontrer qu'on aime le Seigneur, puis les gens, ils vont le voir, qu'on est des vrais chrétiens. Je finis avec un dernier passage, qui est comme une conclusion, mais ça nous remet tout en... Ça nous fait comprendre cette parabole-là, qui est vraiment dans le contexte de ce que j'amène aujourd'hui. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. Quand Jésus va revenir à son retour, toutes les nations vont être devant lui, mais c'est pas tout le monde qui va être ramassé avec lui à l'enlèvement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, ça c'est à son retour. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, puis là, il voit tout le monde devant lui. Toutes les nations vont être assemblées devant lui, puis là, il va séparer les uns avec les autres. Le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite. Ça, c'est ceux qui vont ramasser, puis il va lui dire de « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui était préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, m'avait donné à boire. Il aimait pas juste en parole, mais en action. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Puis la conclusion, verset 40, le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, et c'est à moi que vous les avez faites. Puis si on continue le chapitre, c'est le contraire. Il va dire aux autres, allez maudits dans le feu éternel, parce que j'ai eu faim, ils m'avaient pas donné à manger. J'ai eu soif, ils m'avaient pas donné à boire. Puis ils vont demander, quand est-ce qu'on t'a pas assisté? Puis là, il va dire, chaque fois que vous n'avez pas fait ça à un des plus petits de mes frères, il va lui reprocher de ne pas être des serviteurs pour son royaume. Puis ils ne rentreront pas. Ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui servent parmi les frères et sœurs. Aimons en action et en vérité. C'est ça que Jésus s'attend pour chacun de nous. Si on est une église qui saisit cette vision-là, ça va donner toute la différence. La puissance du Saint-Esprit va être encore plus à l'œuvre au milieu de nous. Il va nous ouvrir des portes pour qu'on puisse prouver notre amour, puis montrer qu'on est au service des autres. Puis c'est de même que Dieu est glorifié au bout de la ligne. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour les révélations de ta parole. Continue à nous faire grandir, Seigneur, à nous épurer, à nous transformer, à nous rendre comme tu t'attends de chacun de nous, Seigneur. Je te remercie de nous parler au niveau du service entre frères et sœurs. Apprends-nous à avoir les yeux ouverts, puis à voir ce que tu places devant nous, ces œuvres-là que tu as préparées d'avance afin qu'on les pratique. Je te demande de nous les montrer, puis qu'on puisse les faire parce qu'on t'aime, parce qu'on veut te servir, on veut glorifier ton nom. Seigneur, bénis chacune de tes brebis, puis merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.